Nous sommes le jeudi 23 avril, il est 21h pile, non je ne veux pas entendre quoi que ce soit d'autre, il est 21h pile sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. De la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Romain qui hébergera ce samedi un stream sur les jeux qui seront présents à un événement qui s'appelle l'Indie Game Lyon, dont on n'a pas du tout parlé la semaine dernière et dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui non plus.
C'est ça, et un stream où je n'aurai pas non plus le plaisir de t'héberger toi aussi.
Voilà, c'est ça, avec donc un invité spécial pour cette occasion, moi.
Il s'est invité lui-même.
Évidemment. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va se passer et surtout combien me rapporte cette OPSP?
Ben, j'espère que tu reviens avec le dessert déjà. Et sinon, du coup, on va essayer. Donc, on va jouer à quelques-uns des jeux qui seront présents à l'Indie Game Lyon. Donc, le 15 et le 16 mai, très très bientôt au CCVA. Mais ça, on laissera Bettina nous en reparler. Mais donc voilà, on va essayer.
Ça y est, hein, je pense, non ?
On va se faire une petite liste de jeux parce qu'on va jouer une petite partie de l'après-midi. Mais forcément, il y a 34 jeux qui sont présents, dont certains qui ont des démos déjà accessibles. On va faire une petite sélection de ce qui sera sympathique à présenter et qu'on a envie de présenter aussi. Donc voilà, ce sera ce samedi après-midi sur ma chaîne Twitch, Ruven _ sur Twitch.
Et bien voilà. Sûr, vous aurez tous les détails sur nos très nombreux et très prolifiques réseaux sociaux.
C'est ça. Grâce à
quelqu'un qui a connu la joie et le confort d'être invité la semaine dernière et qui retrouve aujourd'hui sa place de chroniqueuse et d'intervieweuse féroce.
Ouf, féroce.
Bonsoir, attention, elle mord. Bonsoir, c'est vous
Bettina.
Qui êtes à côté.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Claqué, mais ça va.
Ah ouais.
D'habitude, c'est toi qui dis ça va, tout va bien. Ouais, bah, elle... Là, ça y est, hein, t'as pris tes marques.
Et bah là, en plus, autour de toi, il y a plein de gens.
Oui.
Il y a plein de gens parce que ce soir, on reçoit Julien, Mickaël, Clément et Delphin de la Guillotine qui vont nous parler, entre autres, de leur dernier jeu paru qui s'appelle Shumini Tiny Army. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de laisser la main à Bettina, je voulais juste parler rapidement d'un événement qui s'appelle le Alive Event, qui est en fait un stream caritatif qui aura lieu entre le 1er et le 3 mai prochain et en fait dont le but est de récolter un maximum de fonds pour aider la Fondation Analgesia à sensibiliser sur les douleurs chroniques et donc sur toutes les maladies qui provoquent des douleurs chroniques, notamment l'endométriose. Et donc c'est la 6e édition qui aura lieu et je vous donnerai le lien normalement dans le podcast et si vous voulez y aller c'est donc a-live-event.org pour avoir tous les détails. Et donc, on va vous donner là des nouvelles sur des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Merci. Donc, je vais vous parler de Chop Chains du solo dev Alexis Jelin, qui est sorti il y a tout juste 2 semaines sur Steam. C'est un jeu incrémental relaxant où on coupe des arbres. Donc, il faut simplement survoler les arbres avec le curseur pour les couper automatiquement. Les arbres coupés laissent tomber du bois. Donc, plus on coupe, plus on récolte. Il y a différents types de bois, chacun avec sa propre valeur et sa propre rareté. On peut combiner différents types de bois pour forger des nouvelles haches, chacune offrant de meilleures statistiques et parfois un pouvoir unique. On peut aussi dépenser notre bois pour débloquer des améliorations permanentes dans l'arbre de compétences qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Au fil de la partie, on peut débloquer des skills qui changent la façon de jouer, invocation de tempête d'éclairs, de chaînes de haches ou des taupes. Chaque skill, je ne sais pas ce que font les taupes, mais on peut invoquer des taupes. Chaque skill frappe plus fort, inflige plus de dégâts et augmente la puissance de coupe. Il y a même un contrôleur de spawn à débloquer qui permet de paramétrer les pourcentages de types d'arbres qui vont apparaître sur la map. Donc à force de persévérance, on va pouvoir débloquer des haches légendaires qui vont nous permettre de trancher des forêts entières à la vitesse de l'éclair. Shop Chains coûte 5,89€ sur Steam, mais il y a une promo en ce moment et puis aussi des bundles, donc voilà, allez jeter un œil.
J'espère qu'il y a un bundle avec Timberborn.
Non, pas avec Timberborn, mais
ça aurait été malin.
Avec d'autres jeux, avec des histoires de
écologique
et de
qui respectent la nature,
non, d'accord. Justement.
Comme Timberborn.
Exactement.
Et puis, deuxième info, je vais vous parler de la prochaine soirée de playtest, samedi 2 mai à partir de 19h30 à l'Aquarium Ciné Café, 10 rue du Mont, Lyon 4, avec une réservation gratuite mais conseillée sur le site web de l'Aquarium. Oui, parce que la dernière fois, on était beaucoup trop nombreux. Durant cette soirée, vous pourrez essayer 6 jeux. Je vous les présente en quelques mots. Balance of Blocks, qui est un Tetris-like où il faut jouer des deux côtés d'une balance et garder l'équilibre. Dream Chaser, qui est déjà venu à la toute première soirée de playtest, qui revient du coup. C'est un jeu de combat de boss en 2D. Overlit, qui est un jeu d'exploration et de puzzles environnementaux avec de la lumière. Ratatouille Builder, qui est un roguelite deck builder de cuisine. Et ça, ça m'intrigue. J'ai pas joué. J'ai
non,
très envie de voir.
Ils ont les droits de la licence.
Mais t'as dit Rock Like des Builders, j'ai eu un PTSD.
Oui.
C'est pas ton genre à toi.
Sumo versus Zombies, un roguelite isométrique beat'em up. Et enfin, Wildlife Shelter, je pense que c'est mon futur chouchou, un jeu cosy d'exploration et de photographie en 2D panoramique, ça, c'est complètement ma cam. Ces soirées donc, sont l'occasion pour les devs de faire tester leurs prototypes et de récupérer vos précieux retours, ils et elles en ont besoin. L'entrée est gratuite si vous avez adhéré à l'Aquarium Ciné Café, sinon l'adhésion coûte 4€ et elle est valable pendant un an. Voilà.
Merci Bettina. Nous allons passer à nos invités. Bonsoir messieurs, on est en infériorité numérique littéralement. Bettina n'est pas en danger vu que c'est la prédatrice plutôt dans l'émission. Donc vous représentez tous le studio Guillotime. Est-ce que vous pouvez, on va faire un petit tour de table pour juste que vous présentiez qui vous êtes et surtout le rôle que vous avez dans le studio.
Salut, bonsoir, je m'appelle Clément. Moi je suis graphiste, multicasquette, aussi je fais de la com, un petit peu de game design et tout, voilà. De toute manière avec l'équipe, comme beaucoup d'équipes indées, on est plusieurs à porter plusieurs casquettes.
Polyvalent. Agent polyvalent, comme on dit chez McDo.
Tout suisse. Je vais laisser les autres présenter aussi leur.
T'es le seul à avoir une casquette ce soir. Mais
c'est vrai.
Ah, j'y ai pensé, je me suis dit, il y en a un des deux qui va faire la blague. Mais
et forcément, voilà. C'est moi. Je t'en prie, vas-y.
Merci, Clément.
Moi, c'est Julien. Je suis programmeur. Et du coup, je suis le seul à venir du monde de la programmation dans l'équipe. Et moi, derrière, je suis passionné un peu par tout ce qui est mélange technique et artistique. Donc, je suis allé assez rapidement vers tout ce qui s'appelle le technical art. Donc, c'est ce qui fait un peu le lien entre, c'est en gros réussir à mettre en place les trucs techniques pour que les graphistes puissent travailler comme il faut, quoi. Et ça va bien avec l'équipe qu'on a où on a beaucoup de graphistes. Et puis derrière, je fais aussi beaucoup, donc j'ai beaucoup de grosses appétences pour tout ce qui est game design, et en particulier, du coup, vu que je touche au code, je fais aussi tout ce qui est équilibrage, qui nécessite d'être pas mal dans le code. Et le game feel, donc c'est tous les trucs qui font que le jeu devient intéressant à manipuler. Avant même toutes les règles, toute l'histoire et tout ça, comment on fait pour que manette en main, le truc il soit intéressant. Quoi.
D'accord, donc la maniabilité,
c'est ça. Ce qu'on appelle la juiciness.
Ouais.
C'est,
la juiciness.
En gros, dès qu'on touche quelque chose, ça explose dans tous les sens.
Les retours. Je cherche le mot.
Un peu comme avec certains autres développeurs, on avait parlé de ce qu'on appelle le flow. et c'est des choses qui se mettent en place.
Oui, un petit peu.
C'est-à-dire que le fait que, en fait, une fois que tu commences quelque chose, que tu commences à jouer, t'as pas d'interruption, tu as des retours, que ça soit des retours, que ce soit au niveau
des retours visuels
ou sonores ou de tremblement ou de ce que tu veux, c'est qui ça. Font que c'est agréable et que t'as envie de continuer. Quoi. Mmh. Ok.
Voilà. Bonsoir, moi c'est Mickaël, et donc comme Clément, je suis dans la partie graphique, et comme lui, comme il a dit, on a plusieurs casquettes, donc en général, j'aime bien faire du personnage, de l'animation, c'était pas le cas sur le projet sur Chamini, où là j'ai fait des décors, et donc c'est toujours intéressant, voilà, après on parle, on a pas mal de, on arrive assez facilement à accorder nos violons avec toute l'équipe graphique. Du coup c'est toujours à chaque game jam on peut faire un peu ce qu'on a envie de faire et donc bah, sur Chamini j'avais envie de tester les décors donc voilà c'était vachement intéressant.
Et ben, bonsoir tout le monde, merci de nous avoir, moi je m'appelle Delphin, je suis aussi surtout graphiste de base comme a dit Mickaël qui disait comme disait Clément j'ai des casquettes tout plein. Et selon les projets, ben, je suis appelé à toucher à pas mal de sujets. Et sur le dernier en date, qui est Chamini, j'ai surtout fait les personnages et leurs animations. J'ai eu un rôle assez informel aussi de directeur artistique pour essayer de guider la patte graphique globale du projet. Et je fais également tout ce qui est les effets sonores et les musiques.
Ok. Ah oui, donc c'est toi qui es sur la musique. Parce que je sais que Julien fait de la musique aussi, mais du coup, c'est pas...
Non, effectivement. Il a un bien meilleur niveau que moi en tout ce qui est MAO. Moi, j'ai touché un petit peu, mais c'est plus le chant. Donc, c'est pas forcément pour faire de la musique de jeux vidéo.
jeu vidéo avec que du chant, ce serait intéressant.
Il y a un truc qui s'appelle Metal Hellsinger, qui est incroyable. Qui est un Doom-like.
En rythme.
Et si tu respectes suffisamment bien le rythme, t'as le chant qui se rajoute par-dessus.
D'accord.
Ils sont allés chercher des chanteurs de groupes pas mal connus.
Ouais,
il y a Serchant qui en.
Ils avaient fait un concert à la Gamescom.
Ouais, il y avait du Arc Enemy, du système.
Il y a pas système, il y a Serchant qui en.
Pardon, il y avait le chanteur du système, la chanteuse d'Arc Enemy, excuse-moi.
C'est ça.
Mais il y a un truc vraiment magique.
Metal, c'est sérieux, merde.
J'avais plus de réserves sur le jeu lui-même, sur le gameplay, etc. Parce que justement, par rapport aux musiques, ils étaient obligés de se caler sur un certain rythme, ce qui faisait un côté très répétitif aussi au niveau des morceaux, je trouvais.
Moi je trouvais qu'il réussissait à s'arrêter au moment où il fallait. Il n'aurait pas dû durer 2 heures de plus.
Je trouve qu'ils ont bien tout mis dans la fin.
Ouais.
Ils ont très, très bien réussi la fin, mais je trouve que
le problème, c'est qu'on est déjà en train de digresser, ça fait 15 minutes qu'on a commencé.
J'avais une première question par rapport à ça, vous êtes 4 ce soir, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là ce soir? Est-ce que d'autres personnes qui participent au projet, au pluriel?
Techniquement, la guillotine, en fait, on est quasiment une dizaine au total. Je sais pas. Ça dépend vraiment des projets de. En fait, on s'est formé à la base vraiment pour faire des game jams. Donc c'est, on a un week-end, on a un thème, on fait un truc quoi. C'était plus vraiment le loisir à la base. J'avais compté, on a une quinzaine de projets, je crois maintenant depuis 2020. Suivant les projets, on a plein d'amis qui sont venus sur un projet ou deux, d'autres qui viennent de temps en temps, qui sont pas tout le temps dispo. Et puis, du coup, pour les productions plus commerciales, sur lesquelles on travaille derrière, y en a aussi qui juste sont pas disponibles parce que, ils ont des travaux, ils ont du travail à côté, et ils veulent pas s'engager forcément sur des prods plus compliqués, quoi.
Ouais.
Donc, on est 4 sur du coup Chamini Tiny Army. Il y a Mickaël qui sur Midnight Blood Rush. Oui.
C'est ça, oui. Je suis sur Chamini, mais pas sur Midnight Blood Rush. Donc il y a 4 personnes sur les deux projets. Et moi, sur un seul des deux.
Avant qu'on commence à parler plus de vos jeux, j'ai juste une question de curiosité. Donc là, vous êtes plutôt 3 graphistes. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez fait des formations en lien avec le jeu vidéo ou pas? Et vous vous êtes justement formé avec les Game Jam?
Delphin, Mickaël et moi, on a fait l'école Emilco à Lyon. Et on a, du coup, on a achevé notre formation par la spécialisation en jeux vidéo en 2 ans.
Emile Cole, qui est une école plutôt dessin animation.
Alors, à la base, plutôt dessin, même d'illustration.
Oui, illustration même, ouais.
C'est ça.
Et animation.
Aussi un cursus d'animation, c'est ça. Oui. Alors, c'est pas une formation en jeux vidéo au sens classique ouais. qu'on l'entend dans une école de jeux vidéo.
C'est pas une école de JV. C'est pas une école de jeux vidéo. C'est une école qui est plus orientée vraiment illustration.
Mais c'est ça, mais il y a un Master 2.
Il y a un Master 2. Alors, dans lequel on touche pas du tout à tout ce qui est prod et on travaille tout seul sur un projet, donc bien loin de ce qu'on fait normalement dans les écoles de JV où on cumule plusieurs personnes qui apportent chacun leur spécialité. Mais du coup, c'est plus une espèce d'école un peu qui forme pas vraiment à la direction artistique, parce que c'est pas en école qu'on apprend la direction artistique, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, avec une formation graphiste, un bagage assez fort. Et en fait, on avait tous les trois, même plus d'entre nous qui sont pas là ce soir, on avait la forte envie à la sortie de nos études de faire de la jam, de la game jam. Donc pour ceux qui peut-être ne sauraient pas, c'est la traduction en français, ça serait une espèce de marathon de création de jeux vidéo. Donc une création de jeux vidéo dans un temps très réduit, en général un week-end 72 heures, dans lequel on a un thème au début du temps imparti et en quelques heures, du coup une poignée de dizaines d'heures, on fait un jeu ou un prototype.
Un prototype, ouais.
Ouais, tout à fait. Voilà. Et nous, on avait très envie de s'essayer à ça. On n'avait pas du tout compétences en développement. Et c'est là que, du coup, Julien intervient. Du coup, Julien, je l'ai rencontré en stage, moi, de fin d'études, où en ma qualité de graphiste dans une boîte à Villeurbanne, j'ai rencontré Julien, qui était déjà établi là-bas, en tant que développeur. Et voilà, ça a bien matché. Et on a décidé en 2020, comme tu l'as dit tout à l'heure, de commencer à faire des jams.
Ok. Donc toi, Julien, du coup, t'as fait une formation, par contre, pour faire du dev dans le jeu vidéo ou pas spécialement ?
Pas vraiment. Moi, je suis arrivé au bac, j'ai dit je veux faire du jeu vidéo comme il faut aller. Il n'y avait pas vraiment de trucs qui existaient. Et puis,
c'était il y a combien de temps, du coup ? Enfin, parce que les écoles, aujourd'hui, on en connaît quelques-unes, mais
c'était il y a combien de temps ? Je crois que ça fait...
T'as quel âge ?
Ça doit faire 12 ans, je crois, un truc comme ça, maintenant.
Parce qu'aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui ont été créées plus récemment que
mais, ça. Mais il n'y avait pas grand-chose qui existait. C'était au moment de la formation de 42, je crois. Que
ah, d'accord. Donc, on est sur début, milieu des années 2000, ouais.
Et donc, mes parents m'ont dit bon, bah, t'es bon en maths, va faire une prépa, tu verras après, quoi.
Ouais, à l'époque, de toute façon, c'était.
C'est ça.
Avant l'école 42, essayez Pita, et puis tu vas développer, et puis peut-être que tu pourras faire du jeu, mais c'était vraiment soit des écoles très spécialisées code, mais des trucs jeux vidéo pur jeu. Bah, limite, fallait mieux aller en université où t'avais certains cursus, mais dérivés où tu pouvais faire un peu d'interaction, de trucs comme ça.
Ou en tout cas, pas à Lyon, mais
à Paris, il y avait déjà. On était au courant de rien, quoi. Jeux vidéo, c'était un peu.
Je sais que Isard Digital existait déjà, enfin, t'avais 2-3 trucs qui.
Ouais, mais pas connaître.
Mais pas à Lyon.
Non,
ouais. C'est parce que vous êtes lyonnais tous. Globalement ou
Non, il y a un grenoblois qui s'est caché dans l'équipe.
Un grenoblois.
Est-ce que vous saurez le reconnaître?
C'est celui qui est venu en vélo.
Exactement.
Ah, t'es venu de Grenoble à vélo? La meuf qui a rien compris.
Oui. J'ai mis 2 jours, j'ai préparé.
Donc du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique généraliste, quoi. Avec le concours, parce que j'ai pas très bien réussi mon concours, donc je me suis retrouvé dans une école qui était pas hyper bien cotée ou quoi. J'ai pu faire une 3e année au Québec où il y avait des échanges pour une formation où il y avait écrit jeux vidéo dessus, donc j'ai foncé, quoi. Et puis après, j'ai trouvé un stage du coup à Artefact Studio qui est à Lyon. C'est un peu pour ça aussi qu'on s'est installé à Lyon avec ma copine, c'est que c'est l'endroit où il y avait le plus de chances de trouver du taf derrière.
Ouais.
Et voilà.
C'est bien. Depuis 2000, combien de fois vous avez dû dire que non, ça n'a rien à voir avec la guillotière?
On n'a pas tenu les comptes, mais
à chaque fois.
Tous les gens qui connaissent un peu Lyon nous ont posé la question.
Ouais. Forcément, c'est difficile d'y échapper. Hein. C'est tellement évident pour nous.
Mais en même temps, ça marche bien. Enfin, on n'est pas très loin non plus.
C'est, oui.
Mais non, oui, c'est une référence à la meilleure partie de l'histoire française.
Celle qui nous manque.
Feu l'époque où je faisais partie des gens qui organisaient les zombie walk à Lyon. La dernière qu'on a faite, on a guillotiné un roi zombie sur la place Satonnet.
Classe.
Avec une guillotine grandeur nature. Voilà.
C'est ça donne envie.
ça donne des idées.
Ça donne des idées. 2027, c'est bientôt. Parlons de trucs plus mignons que ça, notamment du projet qui est sorti en janvier dernier, c'est ça, le 30 janvier dernier, si je ne dis pas de bêtises. Chimney Tiny Army, d'où vient le concept, comment vous êtes lancé dans la prod?
Ah oui, et présentez-le, parce qu'on le name drop depuis le début de l'émission, mais c'est quoi le jeu?
Delphin, c'est pour toi. On a vu les regards. Et globalement,
ils t'attendent.
Tu as été désigné volontaire.
Bon, je ne sais pas si on doit encore présenter Chumini, mais je vais tâcher de le faire. Chumini Tiny Army, Chumini pour les intimes. C'est un vampire survivor-like, mais qui est très coloré, qui est très mignon et qui emprunte quelques influences à des jeux à la Pikmin, puisque un vampire survivor-like, c'est donc ton personnage qui se déplace. Tu contrôles ses déplacements, mais tu ne contrôles pas ses attaques, tandis que des hordes d'ennemis te foncent dessus, et s'ils se font frapper par des attaques, bah, c'est bien de leur faute. Là, dans Chumini, Tiny Army, donc petite créature, tu ne collectes pas des armes, mais tu collectes des petits Chumini, des esprits de la forêt qui ont chacun un comportement bien à lui, un petit comportement qui va faire dans son coin. La seule manière dont tu as pour influencer ce que ton Chumini fait, ça va être de te déplacer, parce que certains Chumini, par exemple, sont très peureux, et si tu t'approches d'eux, ils vont s'enfuir en hurlant, en faisant des dégâts à tous les ennemis qu'ils vont rencontrer, tandis qu'il y en a d'autres qui t'adorent tellement qu'ils te suivent à la trace. Et on a une quinzaine comme ça de Chumini dont tous les déplacements reflètent un peu leur petite personnalité, et en te montant ta petite armée qui te suit, qui te fuit, qui te tourne autour, tu te crées une petite armée pour fracasser tous les monstres, les mauvais esprits de la forêt, eux, qui s'attaquent à toi. Le concept, il est né d'une game jam. Tous nos projets de jeux sont toujours nés d'une game jam. Comme disait Julien, on en a bien une quinzaine à notre actif, et c'est vrai qu'on a été boulimique de la game jam pendant bien des années, et c'est seulement le deuxième projet dont on se dit: tiens, ce projet de jeu de jam, j'aimerais qu'il existe au-delà d'un projet fait en 48 heures avec un beau patch de debug après. On veut passer du temps dessus pour en faire une sortie Steam. Alors, on était venu il y a 3 ans présenter Mina Blood Rush. Alors ça, c'est un sujet encore à part entière. Chumini, c'est un projet beaucoup plus humble, en tout cas qui se voulait beaucoup plus court, puisqu'on l'a travaillé à peu près sur 6 mois, me semble-t-il.
La prod totale,
8 mois.
8 mois pour la prod totale entre, en gros, la game jam qui a permis de le créer et la sortie du jeu, c'est ça?
Exactement, okay. Exactement. Et donc je dis que il est né d'une game jam, parce que ce qui est intéressant, les game jams, c'est que c'est pas nous qui choisissons le thème. Des fois on peut voter, mais la plupart du temps ça nous tombe dessus comme une enclume. Et là, ça a été le cas, le thème nous est tombé: Tiny Creatures, donc les minuscules créatures. Et c'est de là qu'est partie toute l'idée du projet, de l'idée comment, quel jeu on fait quand la seule contrainte qu'on a, c'est de mettre des petites créatures dedans.
C'est bien les contraintes pour stimuler la création.
Oui, oui.
On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais ouais, c'est bien de voir qu'il y a, pour le coup, ce jeu-là, en fait, a été c'est spécifiquement la, entre guillemets, la contrainte qui a permis de vouloir développer la chose, quoi.
Ouais, je dirais même que c'est une des choses les plus importantes créativement parlant, de se mettre des contraintes, qu'elles soient auto-imposées ou imposées par un biais extérieur, mais ouais, non, c'est comme ça à chaque fois qu'on a des idées qui ne seraient pas venues sans, quoi.
Et le fait que ce soit une petite prod, c'est aussi une contrainte que vous êtes imposée, donc.
Ouais, alors en fait, du coup, je vais rebondir sur ce que disait Delphin par rapport à Midnight Blood Rush. Midnight Blood Rush, qui est le projet historique de la guillotine. En fait, on avait la volonté de, alors pas forcément de mettre en pause en soi Midnight Blood Rush, mais surtout d'expérimenter ce qu'était une sortie Steam dans son ensemble, pour pouvoir répercuter tout ce qu'on en aurait appris sur notre projet principal qui reste Midnight Blood Rush. Et on a décidé de le faire du coup avec une petite prod sur Cheminée Tiny Army. Alors évidemment, petite prod au début, c'était censé être une prod de 2 mois. Évidemment, ça n'a pas été.
De 2 mois à 8 mois, j'ai envie de dire, oui, c'est va. Un projet informatique ça va, classique.
Ouais, exactement,
ça va,
exactement.
À 2 mois, c'est ce que je vois au client.
X4, c'est normal, c'est ce qu'on dit. et en fait, du coup, toute la partie, notamment, pas uniquement, mais notamment marketing, et ce qu'est la vie d'un jeu après sa sortie sur Steam, que nous, on connaissait pas du tout, maintenant qu'on commence à voir un peu. Et du coup, voilà, essayer de faire un peu les pots cassés sur Cheminée. Alors, dans notre chance, on n'en a pas trop eu. On a été plutôt efficace sur l'ensemble de la prod et sur les choix qu'on a fait. On a été bien conseillé évidemment par plein de gens. Et du coup, voilà, la raison de la petitesse de cette prod là, c'était aussi pour ça. Aussi évidemment pour des raisons juste matérielles. Hein. On n'a pas trop de finances, donc on privilégie des prods courtes. Mais voilà.
Mais oui, c'est une très bonne. J'allais dire technique, enfin non, mais
c'est une bonne école en vrai.
Oui, enfin voilà, c'est une très bonne stratégie, voilà, d'avoir voulu se faire une expérience sur un petit projet comme ça. Enfin ouais, non, mais c'est bien vu parce que souvent on a un projet cœur qu'on a envie de mener à tout prix et du coup on se lance dans un truc qui finalement grossit sans qu'on le veuille et ouais, on peut vite partir dans le mur là-dessus quoi. Enfin,
vous connaissez Beyond Good and Evil 2?
C'est difficile de le comparer, mais
ouais, on a entendu parler, ouais. Mais après oui, même il y avait, enfin on a été victime de ça aussi sur Midnight Blood Rush techniquement, ouais. Aussi, enfin le moment où on a lancé Cheminée, il y avait aussi un côté du Midnight Blood Rush a pris plus de temps que prévu. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait dessus et on commençait à être un peu fatigué aussi parce que c'est fatigant une production quand même. Et en parallèle, on était en train de commencer à chercher un éditeur pour potentiellement avoir, parce qu'on avait budgété encore 1 an, je crois, de production pour vraiment arriver au projet tel qu'on l'avait identifié, enfin tel qu'on voulait le faire.
Un co-éditeur.
Oui, co-éditeur.
On
travaille avec Olivier Réjean pour
il faudra qu'on en reparle.
C'est intéressant, mais que tu fasses la précision, c'est.
Bah oui, on pourra reparler d'Abiding Bridge après.
Mais du coup, oui, on était en attente un petit peu de réponse vis-à-vis de Midnight Blood Rush. Il se trouve que c'est pas le genre de jeu que les éditeurs veulent éditer en ce moment, donc on reste en attente toujours. c'était un peu le bon moment pour nous déjà prendre des leçons un petit peu de Midnight Blood Rush, de ce qu'on avait pas anticipé, enfin ce qui nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a pu éviter vraiment beaucoup de choses sur ce projet là. Mmh. Et en fait oui, ça nous a permis de, donc ouais, on était sur 2 mois à la base, mais enfin c'était réalistiquement c'était au moins 3 mois je pense de. Donc je dirais qu'on a un peu doublé, un peu plus que ça, le temps de prod qu'on anticipait vraiment. Mais enfin pour moi c'est une grosse réussite d'avoir réussi à tenir un truc où on n'a pas trop crunché, on s'est pas épuisé sur un truc qui partait dans tous les sens.
Ouais.
Et on a, enfin moi en tout cas c'est une grosse réussite personnelle de me dire que maintenant j'ai un truc qui est sorti sur Steam qui ressemble, oui, à un jeu.
Ouais, ça c'est
et
cool, hein.
Sur lequel des gens ont joué pendant 20 heures quoi. Ouais. C'est,
vous avez pris l'XP aussi que vous vouliez, enfin que. Que vous attendiez, qui était l'objectif, aussi un des objectifs.
C'est
là-dedans,
ouais,
quoi. Comme tu disais sur la gestion d'un projet jusqu'au bout et de son après-vie, enfin de son après-lancement. Comme tu dis,
c'est ce qu'on dit toujours, c'est que les derniers 10% du projet, c'est ce qui prend 90% du temps. Et le fait d'avoir réussi à passer ce cap-là sur un projet, je pense que ça nous donne aussi beaucoup de confiance sur ce qu'on va pouvoir faire derrière, quoi.
Ouais, c'est ce que. Excuse-moi, c'est juste. Je me souviens d'une interview d'Olivier de Rivière. Sur sur une rétrospective de son taf, et il disait en gros que sur il y a plein de jeux sur lesquels il a bossé qui sont jamais sortis, etc. Et il dit en fait chaque prod c'est un miracle en fait.
Ouais, bah c'est ce que j'allais dire.
Parce qu'on se rend pas compte, on se dit oh là là, il y a déjà plein de jeux, tout ça. Attends, non, mais un jeu qui sort, c'est justement, faut jamais oublier les fameux 10 derniers pourcents. Ouais.
qui prennent en fait une énergie et qui sont la somme de beaucoup de choses qui sont et de travail et des fois de chance et des fois de circonstances qui fait que ça peut sortir c'est bien pour vous justement de capitaliser là-dessus.
Ouais, c'est d'autant plus pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une super stratégie d'avoir pensé à faire ça, à faire un petit jeu pour se faire de l'expérience et tout, parce que justement c'est une vraie grande victoire d'avoir réussi à sortir un jeu fini, et j'espère que du coup ça vous a un peu reboosté et remis en confiance pour la suite.
Ouais, tout à fait. Je vais rebondir aussi sur ce que vous disiez juste avant, qu'effectivement, par rapport aux 10% qui représentent, nous, on parle en plus d'une prod qui est petite. Il faut s'imaginer sur des prods qui durent 3 à 4 ans. Enfin, c'est beaucoup de stress aussi, parce que nous, effectivement, c'était 8 mois, donc c'est moins de stress par rapport à ce qu'on a engagé dans le projet, par rapport à sa finalité, etc. Mais sur des prods longues, c'est voilà.
Bon, faut voir hein, que, ben, notamment, j'avais fait une interview des gens qui avaient fait S-Clash lors d'une Indie Game Lyon, et sur la fin, ils disaient que globalement, ils ne pouvaient plus voir son jeu, quoi. Ils n'en pouvaient plus. Et pourtant, ils avaient passé tous, je crois, 3 ou 4 ans sur le jeu. 4 ans, hein, c'est ça, ouais. Et ils n'en pouvaient plus, en fait. Alors que c'est un projet ils ont énormément tenu, qui est un projet qui tient je conseille à tout le monde de jouer, parce qu'il y a un côté très très immédiat au jeu qui marche très bien, tu vois, mais en fait au bout de 4 ans tu peux plus le voir en peinture ton jeu, tu vois, donc c'est
même au bout de 8 mois
et 8 mois en plus de trucs tout mignons et tout sympas en plus, tu vois,
coloré, sucré
et tout
Et pour le coup, j'ai vu ce sur quoi est en train de bosser Bastien, qui a fait S-Clash. Oui. Ça promet vraiment aussi, quoi.
Oui, justement, c'est Dream Chaser dont je parlais tout à l'heure qui sera à la prochaine soirée de playtest. Wow. Venez.
Oui, il fait vraiment partie des gens qui ont repris l'expérience du premier jeu pour faire un truc vraiment. C'est plus contenu et en même temps hyper poussé dans ce qu'il fait. Donc.
Et du coup, vous êtes. J'allais dire satisfait de ce, enfin au-delà de l'expérience, au-delà de tout ça,
les retours,
parce que finalement, comme tu disais, il y a des gens qui ont joué une vingtaine d'heures, pas tous, mais certains, il y a eu du retour, il y a eu de la communication, il y a eu des échanges, il y a des gens qu'on a streamé, il y a eu, par rapport à ça, qu'est-ce que vous en tirez,
Je vais laisser Clément parler du marketing après, mais du coup, on a 95% de reviews positives sur Steam, donc rien que ça, c'est quand même un truc.
Du coup, on est en extrêmement positif là, ou
on n'a pas encore assez de reviews.
Il en faut 500. Il en faut 500 pour l'extrêmement. Ouais. Donc, là, on est déjà en très positif et c'est déjà bien.
C'est ça.
Quoi,
c'est ça. Et de ce qu'on nous a dit, le nombre de ventes est vraiment correct pour un premier jeu, donc on n'arrivera pas à rembourser les coûts du développement peut-être sur la totale durée de vie du jeu, on verra. Okay. Mais c'est pas un succès commercial monumental, mais en tout cas les gens qui jouent sont très contents et
On parle d'un jeu à 4 euros aussi.
Oui, c'est que pour arriver à vendre, voilà. vendre suffisamment de jeux pour être rentable, il va falloir payer
le travail de 4 personnes minimum sur 8 mois, faut quand même en vendre
plus. Je tiens à dire que donc bientôt il y a le Summer Game Fest et que Geoff cherche des jeux à passer. Donc voilà, je pense que ça fera un petit boost. Hein.
Ah, après, ça
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
C'est 100 000 les 30 secondes. c'est un peu le problème.
C'est un calcul après.
Ça vaut ce que ça vaut, mais la première fois que vous avez proposé Tumini à Indie Game Lyon et qu'on l'avait testé, alors moi je l'avais pas testé parce que j'aime pas les jeux de ce genre, enfin c'est pas ma cam, donc mon avis aurait été biaisé, mais je vais prendre l'exemple de Yannick. Yannick l'avait testé et il trouvait que le concept était intéressant, mais voilà, en tout cas c'était les retours que je vous avais fait par mail à ce moment-là. Et quand il y a rejoué, c'est devenu sa nouvelle addiction. Voilà.
Ouais, de mémoire, je crois que le premier proto qu'on avait envoyé, c'était le jeu à la sortie de la jam quasiment.
Ouais.
Et ensuite un autre proto avec 2 mois de travail en plus.
Rien que ça, du coup le jeu avait énormément évolué et il l'a vraiment adoré, il y a beaucoup beaucoup joué.
C'est vrai que les retours que j'avais lus, notamment sur les commentaires sur Steam, il y a beaucoup de Vampire Survivor Cross Pikmin, mais quand j'y ai joué, moi ça m'a beaucoup fait penser plutôt à un jeu qui s'appelle Patapon, qui est donc un jeu de rythme où, pareil, tu prends plein de petites créatures. Et en fait, le truc, c'est que dans Patapon, tu as plein de créatures différentes avec des comportements différents aussi. Et c'est selon les rythmes, tu leur fais faire différentes choses. Et c'est ça, c'est ça.
Ouais, je vois le délire.
Et le délire m'avait finalement fait plus penser à ça. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'au final, par rapport à Vampire Survivor, qui est en gros très placement et build. En fait, là, il y a un côté aussi plus actif et comportemental par rapport à tes petites créatures. Et je trouve que ça change vachement.
Le choix que tu fais,
ça change vachement les choses. Ouais,
il y a un petit truc qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que on a voulu rajouter quelque chose dans l'action par rapport à Vampire Survivor, c'est que chaque créature différente a un pouvoir actif qu'on peut activer, qui a un cooldown, enfin un temps de récupération à chaque fois. Donc voilà, ça donne aussi un peu plus de, et à chaque fois, c'est aussi un travail de placement, du coup, de déclencher le truc au bon moment pour en tirer le meilleur possible.
Mais moi, j'avais effectivement découvert le jeu à l'Indie Game Londres l'année dernière, c'est ça. Et effectivement, bah, forcément, vous m'aviez acheté parce qu'il suffisait de survivre au premier niveau pour gagner un cookie. J'avais gagné un cookie, donc forcément, voilà, depuis, je suis vendu au jeu. Mais et la question par rapport à la version qui était dispo à l'Indie Game Londres, donc de mai l'année dernière, c'était ça, hein, déjà en mai l'année dernière.
Oui.
Du coup, c'était il y a 8 mois, entre la sortie et l'Indie Game Londres l'année dernière, vous avez eu le temps de. Bah, du coup, vous l'avez fait évoluer. Vous parlez de 8 mois de production, mais finalement, il y avait déjà une version.
Ouais, entre mai et janvier, quoi.
Ouais, voilà. Il y avait déjà une version qui m'a semblé pas mal avancée, quand même. Ça fait 7. C'est ça que tu disais.
Oui, non, nous tout ce qu'on a rajouté derrière, c'est surtout du contenu et puis aussi solidifier le design d'un peu tout, parce que il y a une grosse question d'équilibrage sur ce genre de jeu forcément. Okay. Et puis ce qu'on voulait faire aussi, c'était que le contenu qu'on rajoute, ce soit pas juste du color swap, plusieurs fois la même chose. La manière dont on a réfléchi les petits Choumini, c'était de toujours utiliser que chaque Choumini t'incite à te déplacer d'une manière différente. Donc on a ceux qui te courent après, qui du coup t'incitent à t'enfuir des ennemis pour qu'ils marchent sur la petite traînée qu'ils forment. On a ceux qu'il faut pousser sur les ennemis et du coup on est tenté de se rapprocher des ennemis, de réfléchir à son positionnement, faire des murs. Mais on a aussi du coup ceux qui restent au sol, qu'on doit pousser pour faire rouler et rebondir, qui nous obligent du coup à aller chercher des choses qui sont sur la map. C'est vraiment de cette manière-là qu'on a réfléchi. C'est chaque Choumini va avoir une espèce de forme de dégâts passive, donc, parce qu'ils vont tous soit se balader, soit rester sur place, soit. Donc il y a un petit côté de tous les Choumini ont une valeur qui est passive. T'as pas besoin forcément de t'en occuper pour qu'ils servent à quelque chose. Par contre, donc déjà, il faut que cette valeur passive elle soit pas trop forte par rapport au reste, parce que sinon t'as rien à faire, tu prends les Choumini, t'as gagné. Et derrière, il fallait que chacun te donne des opportunités. Parce que du coup, il y a le pouvoir actif qui te pousse, enfin le comportement qui te pousse à te déplacer d'une certaine manière pour maximiser les dégâts. Et il y a en plus de ça le pouvoir qui qu'on lance en même temps pour tous les Choumini. Et ça, c'est intéressant parce que je sais que c'est un point de design où il y a des joueurs qui râlaient un petit peu parce que il y a le côté du on veut pouvoir lancer le pouvoir de tel Choumini à tel moment et ensuite lancer l'autre, voilà. Le fait de tout lancer, déjà, ça simplifiait vachement parce que ça fait qu'une seule touche et on n'a pas à se poser la question de ok, ce machin là il est prêt dans 10 secondes, tout ça. Donc niveau gestion, c'était beaucoup plus simple et surtout ça oblige à essayer de chercher le moment où on a l'opportunité la plus grosse pour faire le maximum de dégâts ou d'utilité avec notre pouvoir, quoi. Donc on en a certains où il faut s'aligner avec l'ennemi pour pouvoir faire le plus de dégâts possible, d'autres où il faut avoir un petit temps de pause parce que les amoureux qui nous tournent autour, leur pouvoir il fait qu'ils soignent tant qu'on reste dans la zone qu'ils forment, donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être tranquille pour rester dans la zone pour se faire soigner. C'est vraiment tous ces éléments-là dans le design qu'on a essayé d'équilibrer et de rendre tous les Choumini intéressants d'une manière ou d'une autre, quoi.
Non, pour le coup, c'est un truc que ouais, j'avais apprécié enfin déjà dès la démo, parce que je trouvais que l'utilisation des Tuminis me faisait penser à lorsqu'on va prendre des armes différentes dans un jeu comme Hades, où par exemple tu joues à l'arc, tu joues à la lance ou tu joues au poing, et ben tu joues absolument pas de la même manière. Et je trouvais que justement selon tes préférences de gameplay, il y a des chemins que tu vas jamais choisir, ceux que tu vas systématiquement choisir. Et je trouve que c'est un peu une forme de build, exactement, ouais. Comme ouais. Dans ce type de jeu, c'est ça que j'avais bien aimé. Ouais.
Surtout que tu vas les choisir en fonction de ceux que tu as déjà choisi. Enfin, tu as ça aussi.
Ouais. Et puis surtout,
de coopération et de complémentarité.
Ouais. Et je sais que la complémentarité, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans les roguelites en général, c'est quand la complémentarité, elle se fait pas uniquement sur des stats. Parce que c'est facile de dire, bah en fait, quand t'as tel Chumini et tel Chumini, tu vas avoir un bonus pour telle ou telle raison. Moi, j'aime bien avoir des vraies différences de gameplay qui font que, naturellement, il y en a qui vont se cumuler. Et, oui, c'est ça que je trouve intéressant, quoi.
J'ai une question. Pardon, je t'en prie.
Non, mais c'est juste qu'on l'a évoqué tout à l'heure en disant on va en reparler, et puis oui. Je voudrais pas qu'on oublie de le faire.
Bridge, oui.
Exactement. Donc vous êtes accompagné par Abedding Bridge, qui est un genre d'éditeur, mais un peu particulier. Donc ouais, racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
Ouais. Alors ouais, c'est ça. Je vais faire la petite distinction tout de suite. En fait, on parle de nous comme d'un studio. On n'est pas vraiment techniquement un studio. On est un groupement d'artistes auteurs.
Okay.
Et on travaille avec Abedding Bridge, qui propose une formule un peu différente de ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo en France, en tout cas. Où d'habitude, il faut pour publier un jeu sur Steam, il faut avoir une boîte, un numéro de tiré de boîte, etc. Et puis juste
oui, créer une entreprise.
Voilà, créer une entreprise, tout à fait. Et Abedding Bridge propose ce qui se fait, une alternative qui se fait notamment dans la musique ou dans l'édition papier, qui est l'achat de droits d'exploitation. Donc en fait, eux, ils achètent les droits d'exploitation du jeu et ils mettent le jeu sur Steam en tant qu'entreprise et ils nous reversent les bénéfices en tant que nous, artistes auteurs. Nous, ça nous permet de ne pas avoir à monter de boîte tout de suite. Spoiler, on n'a pas trop la fibre entreprise dans l'équipe, et surtout en fait ça nous permettait de se faire la main, de voir un peu comment ça fonctionnait, et puis sortir un premier jeu sans avoir à monter une boîte, se rendre compte que ça fonctionnait pas et de mettre la clé sous la porte 6 mois plus tard. Donc voilà, ça c'était vraiment ce dont on avait besoin au moment où ça s'est présenté à nous, et aujourd'hui je pense que ça nous convient encore bien. On verra par la suite comment ça se goupille pour nous, à quel point on a envie peut-être un jour de se lancer aussi faire une entreprise qui s'appellerait la Guillotine. Mais voilà, pour l'instant ça nous convient bien, et du coup c'est à plusieurs titres, c'est notre éditeur. Alors ils ont un modèle qui fait qu'ils ne donnent pas de ressources financières. Par contre, ils ont été d'une grande aide à bien des égards au niveau de l'environnement Steam, au niveau de conseils multiples qu'ils ont pu nous donner.
Ouais, alors j'ai créé un event Steam. C'était horrible, voilà. Les interfaces Steam, au secours.
Ouais, je confirme. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que je disais un co-éditeur tout à l'heure. En fait, nous, ce qu'on cherchait dans la co-édition, c'était plutôt la ressource financière, et qu'on n'a pas trouvé, parce que juste les fonds sont gelés depuis 2 ans, 3 ans maintenant, et que c'est pas prêt de changer tout de suite.
Ouais. Depuis qu'il y a plus une croissance à deux chiffres, et ouais. Ben voilà, ils veulent plus. Eh ben ok. Un petit mot sur Abedding Bridge, qui a déjà dans son catalogue de sacrés bons jeux dont on a parlé ici, notamment quelqu'un nous a un peu parlé de World Atro dans cette émission.
Je vois pas de qui tu parles.
Voilà. Je conseille aussi Time Rift, qui est très cool. Esclage, dont on a parlé tout à l'heure. Bettinoz, elle ne peut pas mal parler de Randomize aussi.
Oui.
De Randomize, et puis le Pack Rate d'un de Bunborough, qui est pas mal aussi. Et puis il y a
à
aussi
venir,
à venir, il y a les un jeu
il y a un jeu qui vient de sortir aussi, qui est sorti hier ou avant-hier, je sais plus, qui s'appelle Space Drilling Station.
Oui exact,
c'est vrai, j'ai vu c'est Lupus,
oui, Space Drilling Station, c'est
Julien,
vrai,
qui est là régulièrement avec nous aussi, qui était là la semaine dernière,
je crois qu'il est sorti en early access,
il y avait quelqu'un de Abedding Bridge dans le chat de sa chaîne Twitch pour voilà. Me parler. C'était en plus, c'était un dimanche. Je lui disais, mais tu travailles le dimanche en plus. Qu'est-ce que c'est que cet éditeur? Enfin,
ouais. Et le jeu avec qui, justement, ben, Romain vous a fait chier avec Wordatro. Moi, je vous ferai chier avec Dolos. Voilà, parce que voilà.
T'as pas fini de casser tous leurs ordis déjà?
Ah oui, mais en même temps, ils ont qu'à faire des bons, ils ont qu'à faire des bons ordis. Qui supportent leur bon jeu. Voilà.
On l'attend fort aussi.
J'ai une question plutôt pour les graphistes. Parce que pour moi, un vrai défi sur ce jeu, c'est la lisibilité. Parce que on a plein de. C'est pour un survivor, donc on est censé se déplacer sur un décor avec pas mal d'éléments à l'écran. Il y a beaucoup de choses à l'écran parce que dans un survivor classique, on va dire on va te mettre tes armes et des ennemis. Mais là, il y a plein de petites créatures qui sont à toi, il y a plein d'ennemis qui sont pas à toi, il y a. Les créatures qui vont des fois générer aussi des projectiles. C'est un vrai défi. Comment vous en êtes sorti avec ça?
C'est vrai que c'est un peu un travail en tandem entre tous les graphistes. Au final, les petits personnages sont tous très colorés. Donc évidemment, les décors, il faut pas qu'ils prennent le pas là-dessus. Donc il faut voir avec la personne qui travaille sur ces personnages-là, faire des tests ensemble. Et voir ce qui marche et du coup les décors sont un peu moins colorés pour que tout ce qu'il y a à l'écran en fait soit clair. Faut prendre en compte les éléments sur le décor, les arbres, tout ça. Faut pas que ça obstrue la vue. Faut pas que ça cache le personnage, que ça fasse baisser la lisibilité du jeu. Et du coup à chaque fois c'est des tests, voir ce qui marche pas. Après on se donne toujours beaucoup de retours en fait entre nous. Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi vachement intéressant quand on est une bande d'amis et qu'on travaille tous ensemble au même endroit. Voilà pour les retours. Voilà, lorsque je ne sais pas, je peux demander à Delphin et lui il va me donner un retour. Je peux demander à Clément, même à Julien aussi. Du coup après on arrive un peu à faire notre tambouille et on se rend compte de ce qui marche ou pas et après Delphin lui il a beaucoup aussi travaillé sur la lisibilité des Chemini. Je vais peut-être lui laisser la parole là-dessus pour qu'il en parle.
Seulement après, s'il a envie.
J'ai toujours
c'était
envie
un
de parler,
travail mais... à deux sur là-dessus.
De toute façon, moi, j'aurais pas grand chose à rajouter parce que Mickaël l'a très bien expliqué, mais oui, de la même manière que le décor a une palette de couleurs qui permet de s'effacer, même s'il reste très très beau, les personnages ont une palette de couleurs très très vibrante, très très simple aussi. Une palette réduite au sein d'un personnage, parce que à l'échelle du jeu, la palette est toute sauf réduite, puisqu'on a globalement toutes les couleurs, et quand il n'y avait plus de couleurs disponibles, on en a inventé d'autres. Chaque cheminée étant d'une couleur primaire différente, c'est un bel arc-en-ciel qu'on a, et le fait que ce soit basiquement des petits Smarties tout ronds, ça aidait au fait qu'il en fallait plein à l'écran, il fallait qu'il soit très petit, donc des designs très épurés, très reconnaissables et très colorés a beaucoup aidé pour ça.
Et très contrasté avec les ennemis aussi, du coup, pour que justement on les différencie bien. Enfin,
oui,
c'est ça le défi dont tu parlais.
C'est ça,
sur la visibilité.
Oui, et contrairement à Vampire Survivor, qui ressemble juste à une bouillie de pixels.
Dis pas du mal du pixel art, ça va.
Est-ce qu'on peut appeler ça du pixel art, en l'occurrence?
Alors, dans le cas de Vampire Survivor, c'est du pixel reprise, hein, vraiment. Pour le coup, c'est littéralement des sprites qui viennent d'ailleurs, quoi. Donc, ce qui avait fait la force du truc, c'était, une des forces de Vampire Survivor, c'est sa lisibilité, justement. Mm. Beau ou pas beau, entre guillemets, c'est le fait que tu puisses rapidement repérer ce que tu dois faire, et voilà, quoi.
Après, en fin de partie, c'est plus très lisible.
Oui, je suis désolé, moi, je vois rien.
En fin de partie, de toute façon, le but, c'est que tu meurs.
Voilà. Et si t'as pas un PC qui tient un peu la route, ça saccade les gens.
Je pense que c'est pour les CPU de l'époque, justement, qu'ils ont fait une limite à 30 minutes, quoi.
Début. La question de la lisibilité, Julien a beaucoup, il parlait de tes cartes tout à l'heure et du coup il a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus aussi.
Il y a plein de petits trucs qu'on a expérimenté au fur et à mesure parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont assez spécifiques au Vampire Survivor like. C'est un peu pour ça que à la base je m'intéressais un peu au genre, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles les décisions de design sont vraiment à l'opposé de ce qui se fait dans les jeux d'action classiques, quoi. Et notamment, vu qu'il y a autant d'ennemis à l'écran, que l'écran est toujours saturé, en fait, on peut pas se permettre de mettre un son sur chaque fois qu'un ennemi se prend des dégâts, parce que sinon on comprend rien. Et donc c'est pareil pour les effets qu'on met sur les ennemis quand ils se prennent des dégâts. Du coup, on est resté vraiment hyper simple sur chaque ennemi a une seule image en fait qui bouge pas beaucoup. Il y a peut-être les ennemis qui tirent des projectiles qu'on a une deuxième pour quand ils tirent, mais c'est tout. Et en fait, les dégâts qui sont pris, c'est juste un changement de couleur des ennemis avec une petite vibration. On est obligé vraiment de rester sur des choses qui sont très très subtiles. Et c'est toujours trouver le bon équilibre entre c'est visible quand t'as que deux ennemis à l'écran et ça reste lisible quand il y en a plein quoi. Et après on a fait plus de travail du coup, enfin on a fait des choses plus visibles du coup sur les points de dégâts qui sont affichés. Au départ on partait juste sur le chiffre affiché d'une couleur et point quoi, et en fait plus ça allait plus je me suis rendu compte qu'on pouvait y aller, que c'était là-dessus qu'on pouvait mettre vraiment du punch, et en fait on se retrouve avec il doit y avoir 3 ou 4 niveaux différents de dégâts. Quand on passe à 5, ça passe en jaune, un tout petit peu plus gros quand ça passe à 10, etc. Et en fait ça fait que quand on commence à faire des dégâts et surtout quand on attrape un bonus qui nous double les dégâts, on le sent immédiatement. Sans avoir besoin d'autre chose que juste des chiffres affichés à l'écran. Quoi.
Ouais, ça c'est des trucs qui sont aussi empruntés, que ça soit sur les beat'em all surtout japonais ou certains hack and slash qui aimaient bien aussi bien mettre la patate là-dessus. Le côté affiché que quand tu fais du dégât, je le vois que je fais du dégât. Quoi.
On parlait du game feel au début et ça passe par là.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup de game feel qui est nécessaire sur ces jeux-là, mais c'est du game feel qui doit être quasiment invisible parce que vu que tout est fait et multiplié potentiellement par 200 ennemis, il faut pas que ça donne envie de vomir à la fin. Quoi.
Voilà, ça reste pas visible, ça, pas agressif non plus pour les yeux, même si
c'est ça.
Toujours un peu difficile, hein, c'est toujours
beaucoup de mouvements. C'est pas Vampire Survivor.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Il nous reste quelques minutes. J'ai envie de vous demander maintenant que ce projet donc a quelques mois de vie, vous allez encore le présenter là à l'Indie Gamion. Dans moins d'un mois, qu'est-ce qu'il y a après pour la Guillotine que vous avez un petit peu de retour là-dessus, et qu'est-ce qui va se passer
En vrai, on est en train d'en discuter.
Okay.
Parce que du coup, c'est ce qui était un avantage de pas avoir vraiment d'entreprise ou quoi. Ça a aussi des désavantages, c'est que on peut pas tous garantir d'être disponible tout le temps, et on est tous on part du principe qu'on va pas se ruiner pour faire nos jeux, donc on essaye de garantir d'avoir un revenu avant de se lancer dans des prods quoi. Et là c'est vrai qu'on est sur on a tous envie de à la fois ajouter un peu de contenu sur le jeu parce que il est cool quand même, mais c'est un peu le seul truc qui potentiellement manquerait, c'est du contenu pour allonger un petit peu la durée de vie quoi.
Ouais, mais en même temps tu disais plutôt que vous espérez pas pouvoir en vendre suffisamment pour au moins rembourser le temps de la production. Ça c'est très très important quand même, que les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui nous écoutent, qu'on se rende compte que ce genre de prod sont créés à perte quoi.
Ouais, complètement. Et en même temps, rajouter du contenu à l'état où on en est dans le projet, ça demande quasiment plus rien maintenant, vu que on a toutes les bases qui sont là, et c'est rajouter un niveau. Enfin après c'est toujours pareil, on se dit ça va être rapide, ça va prendre toujours un peu plus de temps.
Mais puis 3 mois plus tard.
Mais voilà, en fait c'est qu'on est on est arrivé à un stade du projet où c'est assez enthousiasmant parce qu'on a vraiment plein de possibilités qui sont offertes par le moteur et on a envie d'en faire plus. Et justement, il faut qu'on soit malin pour pas y passer encore des mois et voilà.
J'avais lu justement sur le côté rajout de contenu comme ça quelques lignes d'un dénommé Kennison par rapport à une drogue qui s'appelle Bolpit, auquel je ne suis pas du tout accro.
T'as vu qu'ils vont rajouter des personnages.
Ta gueule, tu fermes ta gueule. J'arrête quand je veux, d'accord. Et justement, qui disait que là, en gros, c'est de l'ajout de. En fait, le plus long, c'est de l'ajout de biome, mais globalement, rajouter un nouvel effet,
un nouveau personnage, un nouveau bâtiment, c'est que dalle. C'est littéralement que dalle.
Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre-là, c'est qu'une fois que le moteur est en place, encore une fois, vu qu'on a mieux réfléchi le système de manière à ce qu'il soit moins complexe que sur Midnight Blood Rush, en fait, on peut se permettre là maintenant de rajouter des choses sans que ça nous prenne trop de temps. Mais après, oui, c'est ça. L'autre truc qu'on a envie de faire, c'est continuer Midnight Blood Rush et éventuellement le sortir un jour. Et après, le truc, c'est que, faut qu'on arrive à. Ça peut être prendre un peu de temps avant de pouvoir être de nouveau tous disponibles. Parce qu'on a notamment Delphin qui travaille sur un petit projet en parallèle.
Oui, j'allais faire une petite parenthèse à ce sujet.
Bonjour Delphin.
Bonjour.
j'ai très hâte du moment où je pourrais reparler de Witchlight Woods parce que du coup, voilà, on a testé la petite démo, private démo que tu nous avais fait. Et on a adoré, du coup, voilà, j'ai très très hâte.
Eh ben merci beaucoup. Je travaille du coup depuis que Cheministe a arrêté, j'ai rebasculé sur ce projet-là. En attendant le prochain projet, que je puisse repasser sur un projet Guillotine. Je me sens coupable de prendre un peu de temps pour en parler, qu'on a déjà tant de sujets Guillotine.
Non, mais je t'inquiète, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis voilà, venez le découvrir à Indie Game Lyon, puisque
je serai avec la Guillotine, mais pas au stand de la Guillotine.
Voilà.
Je serai au stand de ce jeu-là.
Double casquette dont on parlait au début.
Et exactement, les casquettes s'accumulent. Je pourrais ouvrir un magasin de chapeaux.
Et peut-être, parce qu'effectivement, le temps passe. Avant de conclure, si on a envie de suivre ce que vous faites, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux?
Ouais, on a quitté X il y a bien longtemps maintenant.
Ouais,
on est sur Blue Sky notamment.
Bien, c'est bien Blue Sky. Allez sur Blue Sky.
On a un Discord qui existe et qui est bien. Et ouais, c'est surtout ça. On a quelques comptes à droite à gauche sur d'autres réseaux, mais le principal, ça va être là-dessus.
Ouais, le principal Blue Sky. Il y a un Insta, non, je crois.
Il y a un Insta qui est entretenu de manière peu régulière.
Okay. Donc plutôt Blue Sky, d'accord.
Ça marche. Eh bien, merci Romain, merci Bettina,
merci
Clément, merci Julien, merci Delphin, merci Mickaël.
Il fallait qu'il retrouve ses notes. Ah non,
de quelle note tu parles?
Il a fait deux têtes.
Tiens, au passage, je vais remercier aussi Marie, qui, je sais, c'est ma copine qui vous écoute du coup toutes les semaines.
Trop bien.
Qui est fan de l'émission, et c'est aussi la personne qui avait fait les cookies.
Et je la remercie, parce qu'ils étaient très bons.
Et qui, entre autres, nous fait plein de goodies. Elle nous a fait des petits choumignons en pâte fimo.
Merci Marie, on est fan de toi.
À quand les goodies, stickers parce que, regardez, il reste de la place sur ma bouteille.
Il faudra qu'on réfléchisse aux stickers.
On va y réfléchir très vite avant l'Indie Game
Lyon. Ça va, c'est dans longtemps l'Indie Game Lyon, hein, Bettina?
Oui.
C'est dans combien de temps, Bettina?
Secours, je sais pas, je veux pas compter, arrêtez.
C'est le 15 et le 16 mai.
15 et 16 mai, ça va.
C'est dans 3 semaines.
C'est dans 3 semaines, t'as le temps.
Tout va bien, tu vas pas dormir pendant 3 semaines, Bettina. Tu le sais?
Oui, je sais, merci.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game sur sa plateforme, ainsi que Radio Canu pour l'accès au studio. Et on se dit à la semaine prochaine si Bettina et Romain veulent bien faire une émission, parce que moi, je suis pas là.
Mm-hmm.
Ok, écoute, on verra par rapport à tes dispos surtout, parce que tu risques d'être un petit peu en mouvement.
On se redit ça.
Et de toute façon, on se voit samedi, en vrai.
Exactement. On se reparle samedi. On fera vite fait un petit tour sur. La démo de disponible pour Chumini.
Oui, la démo est toujours disponible sur Steam, donc on pourra aller voir.
On va commencer par vendre un petit peu l'émission qu'on a fait ce soir en vous présentant le jeu avec la démo, par exemple.
C'est ça. Et ben voilà. Et ben merci à tous. Et puis merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et pour les autres, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.
Salut.
Ciao. Salut.